Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
En 1986, Nathalie Sarraute était l'invitée de Eliane Contini pour Agora. Quelques années plus tôt, était paru Enfance, qui s'achevait sur ces mots. Je ne pourrais plus m'efforcer de faire surgir quelques moments, quelques mouvements qui me semblent encore intacts, assez forts pour se dégager de cette couche protectrice qui les conserve, de ces épaisseurs blanchâtres, molles, ouatées, qui se défont, qui disparaissent avec l'enfance. On sait le succès que rencontra le livre, qui est même devenu dans les collèges et les lycées un objet d'étude du genre autobiographique, dans lequel Nathalie Sarraute se défendait pourtant d'avoir versé. Comme dans Tropisme, ce sont plutôt des moments, des formes de sensibilité, disait-elle lors de la parution d'Enfance. Je n'ai pas essayé d'écrire l'histoire de ma vie parce qu'elle n'avait pas d'intérêt d'un point de vue littéraire et qu'un tel récit ne m'aurait pas permis de conserver un certain rythme dans la forme qui m'est nécessaire. Ainsi, Nathalie Sarraute réaffirmait-elle, comme elle le fait d'ailleurs au micro d'Eliane Contini, que tout était là dès l'origine, dès l'écriture de son premier roman. Le mot « tropisme », qui en était le titre, disant finalement tout, ou presque, à lui seul, du sens, du souci et de la nécessité de son œuvre.
Nathalie Sarraute, vous aviez à peu près 7 ans, vous étiez à Saint-Pétersbourg et un jour, chez un coiffeur, vous voyez une poupée. Et tout à coup, l'idée vous est venue que cette poupée était beaucoup plus belle, ou était plus belle en tout cas, que maman. Alors comment garder ce secret? Vous ne souhaitiez pas du tout le garder et vous vouliez justement le dire à maman puisque c'était quelque chose entre elle et vous. Et vous attendiez d'elle l'apaisement, vous attendiez que de rire ensemble, toutes les deux. Et contre toute attente, votre maman vous répond « Un enfant qui aime sa mère trouve que personne n'est plus beau qu'elle. » Et là, vous vous êtes retrouvée toute seule à la merci de vos idées. Et puis voilà qu'une autre idée arrive, une autre qui est plus terrible, c'est que maman qui était belle, qui avait une belle peau, tout à coup, l'idée vous vient que sa peau ressemble à celle d'un singe. Et c'est là qu'elle vous répond « Eh bien merci, on n'est pas plus gentil. » Et vous dites, je n'avais donc aucune aide à attendre de personne, j'étais livrée sans défense aux idées. Alors, est-ce que ces idées, qui sont des réactions fugitives de vos personnages, est-ce que ces idées, ce sont aussi celles qui traversent souvent l'esprit des personnages de vos romans ?
Non, pas du tout. Je crois que ce que j'ai voulu montrer dans ce passage, ce qui m'intéressait, c'était un côté général qui pourrait s'appliquer à d'autres qu'à moi-même, c'était l'installation d'une obsession, d'une idée fixe, et aussi cette idée de sacrilège qui vient dans votre esprit malgré vous, qui s'impose, et c'est ça que j'ai voulu montrer, ce développement de l'idée fixe, parce que c'était devenu une véritable idée fixe, qu'évidemment je ne pensais pas vraiment que ma mère avait la peau d'un singe, mais c'était le sacrilège, la chose à ne pas penser, et c'est justement cette chose-là qui s'imposait que je voulais dire. Ça n'a rien à voir avec les sensations qui, après, se trouvent à l'intérieur de ces consciences que j'essaye de montrer, qui ne sont pas du tout des obsessions, des idées. C'est autre chose. Ce ne sont pas des idées fixes, ce sont des sensations, des mouvements intérieurs que j'ai essayé de montrer pendant qu'ils se développent et qui n'ont...
Oui, mais ce que moi j'avais relevé en lisant ce passage dans votre livre Enfance, c'était plus que le développement de l'idée fixe, c'était sa naissance. Les idées, d'où viennent-elles? On ne sait pas.
Bah justement, mais face à toutes les idées de tout le monde, il ne s'agit pas seulement de ce qu'on montre dans les livres, de ce qu'on écrit, mais d'où nous viennent les idées, ça. Je voulais dire simplement que l'enfant se demandait d'où lui venaient ces mauvaises idées. Ces idées qui le faisaient souffrir, elles arrivaient malgré lui au moment où il y pensait le moins. C'est ça que je voulais dire.
Et ce passage se trouve dans votre livre juste avant votre départ pour Paris, puisque très vite après, oui. On apprend que l'enfant va partir.
C'est ça.
Alors, est-ce que ça n'était pas quelque chose que la petite fille avait peut-être entendu, des phrases, une sensation qu'elle avait, qui la faisait prendre d'avance une certaine attitude par rapport à sa mère?
Absolument pas. Non, absolument pas. J'étais très surprise d'abord quand ma mère m'avait dit que je partais déjà, mais il était normal que je parte voir mon père tous les ans, ça n'avait rien de tragique. Et je l'ai même très bien pris au départ, quand elle me l'a dit, simplement c'était avancé de quelques mois. Et le fait que j'irais voir mon père était plutôt un plaisir que j'envisageais. Je n'ai pas pensé une minute à ce moment-là que ma mère n'allait pas me reprendre.
Et pourtant, vous avez dit à votre ourson, enfin ce...
Après, oui, quand ma mère... Je lui ai dit, nous allons retrouver, parce que ma mère m'a expliqué que j'irais à Paris, que là-bas, bon, j'aurais une autre... Il y aurait une personne, mais que mon père s'était remarié. Enfin, ça n'avait rien
dit,
à voir.
Nous
je crois
une
que
autre
l'idée
maman.
Fixe venait du fait, justement, l'idée sacrilège du fait que je trouvais en effet ma mère très très jolie, que tout le monde me disait qu'elle l'était, et que le fait de le penser, et qu'elle devait être comme une personne sacrée, et que c'était un véritable sacrilège de trouver que la poupée de coiffeur était plus belle. Ça n'avait rien à voir avec ma séparation, avec ma mère, ni avec mon départ.
Très petite aussi, vous aviez commencé à écrire, vous aviez aussi quelque chose comme 6 ou 7 ans.
Oui, mais ça venait aussi du fait que ma mère écrivait, qu'elle publiait beaucoup, que mon beau-père aussi, mon beau-père était un historien, qu'on voyait beaucoup d'écrivains à la maison, qu'on parlait constamment des livres, je voyais les épreuves et que j'avais envie de les imiter. Alors j'avais écrit quelque chose de tout à fait enfantin, ce qui n'est pas l'ombre d'une valeur. Il y a des enfants qui écrivent des choses charmantes. Étant petit, ça, c'était pas le cas. C'était vraiment de la...
Mais vous faites une remarque qui m'a paru intéressante pour la suite. Vous dites que le personnage, vous ne le connaissiez pas, le personnage
que
vous avez
parce
vu.
Que quand l'enfant imagine... Je disais, vous voulez montrer qu'il n'avait aucune vie, qu'il ne m'intéressait pas en réalité, que j'essayais... C'est de la frime, en somme. J'essayais de faire comme si je créais des personnages comme il y avait dans les romans... pour enfants que je lisais, c'était pour montrer à quel point c'était factice, ça ne reposait sur rien.
Mais à ce moment-là, on dit l'oncle, puisque les personnes qui approchent les enfants en Russie, qui les approchaient en tout cas, étaient tous des oncles. L'oncle vous dit, fais attention d'abord de ne pas faire de faute d'orthographe. Et vous avez donc attendu d'avoir 32 ans pour écrire votre premier texte, qui est Tropisme.
Mais ce n'est pas parce qu'il m'a dit ça. Je ne le crois pas. Je crois que... Il y a eu toute une évolution qui a suivi après, qui a fait que je n'avais pas ce que je voulais montrer, ce que j'aurais voulu écrire, n'entrait pas dans les formes qui existaient, qu'il fallait trouver d'autres formes, trouver des sensations qui me semblent n'avoir pas été encore prises dans des formes existantes, et que c'était très long. Et ça m'intéressait, mais enfin je n'avais pas encore ni substance, ni forme sur laquelle je puisse travailler.
Et la forme vous est venue spontanément ?
Tout à fait. C'est venu quand j'ai eu comme ça une sensation très forte, une impression extrêmement vive. Et je l'ai écrit d'un seul jet. C'est resté encore, c'est toujours dans ce livre, Tropisme.
Un livre qui, quand il est paru, n'a pas eu beaucoup d'écho,
bien
sûr.
Du tout. C'est un livre qui a cherché... J'ai cherché un éditeur. Je l'ai fini en 37. Et entre 37 et 39, je ne trouvais pas d'éditeur. Ça a été refusé partout. Et ça n'a paru qu'en 39, en février 39, juste avant la guerre, chez un jeune éditeur qui s'appelait Robert de Noël, dans la même collection où il avait fait paraître Chêne et Chien du Queneau, qui était aussi un jeune auteur que je ne connaissais pas, même de nom.
Alors, pour commencer, je crois qu'il faut que vous nous rappeliez ce que vous avez voulu dire et ce que signifie ce mot tropisme.
C'est très difficile, c'est comme parler de la peinture, il faut regarder le tableau et c'est très difficile d'en parler. Ce sont des sensations qui sont provoquées par l'extérieur, par autrui ou par des objets du monde extérieur et qui glissent aux limites de notre conscience, qu'on peut retrouver mais qui passent très rapidement, que j'ai essayé de montrer en les grossissant beaucoup et en les montrant en quelque sorte au ralenti. Et quand j'ai voulu trouver un titre, je ne trouvais rien. Je pensais que peut-être tropisme, qui était un mot qu'on commençait à employer, un mot pris à la biologie, montrerait ces mouvements justement qui sont instinctifs, qui ne sont pas sous l'empire de notre volonté et qui sont provoqués par une excitation venue du dehors.
C'est un petit peu, ça serait rapproché du sens, je crois, physique du mot, puisque ça s'applique à des organismes élémentaires qui sont attirés
par la
lumière.
C'est cela, n'est-ce pas ? C'est cela, mais enfin, chez moi, c'est très humain. Ce sont des êtres humains. Et les sensations que je montre sont tout à fait celles qu'éprouvent les humains.
C'est-à-dire que vous
ne sont pas si primitives que cela, je veux dire, voilà. On l'a reproché quelquefois, puisque ça s'appelle tropisme, c'est propre aux organismes unicellulaires presque. Et alors j'ai dit non, c'est véritablement tout à fait humain.
À partir du moment où vous vous intéressez aux interactions, à ce qui se passe entre les êtres, à ce que ressent quelqu'un dans son psychisme, à partir de ce moment, il n'est pas nécessaire d'avoir le support d'un personnage qui ait un caractère.
Non, absolument pas. Parce que je pense décrire des sensations qui sont propres à tous, quel que soit le sexe, l'âge, la nationalité, etc. Je crois que c'est, au niveau où je me place, le caractère ne joue aucun rôle. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des caractères très différents entre les gens, mais ça se place ailleurs, au niveau de l'action, au niveau d'autres manifestations. À ce niveau-là, je crois que nous nous ressemblons tous et que nous éprouvons tous la même chose.
C'est-à-dire que lorsqu'on vous lit, on a tous éprouvé ce que vous décrivez.
Je l'espère. Mais pendant longtemps, les lecteurs ne voulaient pas le savoir. C'est un ordre de choses qui ne les intéressait pas. Ils ne voulaient pas se connaître sur ce plan-là, se voir sur ce plan-là. Alors il y avait un refus très grand des lecteurs.
Et vous ne voulez pas non plus qu'il y ait une histoire.
Une histoire risquerait de détourner l'attention du lecteur. J'aime beaucoup lire des livres où il y a des histoires, alors je suis l'histoire. Et on suivrait l'histoire au lieu de s'arrêter à ce développement des tropismes. Ce que je voudrais, c'est que le lecteur puisse vraiment s'intéresser au mouvement dramatique des tropismes, de ces mouvements intérieurs, et pas à l'apparence, qui est quelquefois une intrigue tout à fait banale, que j'ai prise exprès pour pouvoir laisser tous ces mouvements intérieurs se développer sous l'apparence de l'intrigue. Alors si on s'intéresse à l'apparence, ça m'ennuie.
Mais est-ce que vous ne pensez pas que malgré tout, on s'intéresse aux deux, c'est-à-dire qu'on est tout à fait sensible à votre écriture, aux mots, à la finesse, à tout ce qui se passe, à ces moments que vous saisissez et qui s'allongent, je crois, dans vos livres. On ne peut pas tout de même ne pas voir une histoire. Par exemple, si je prends une pièce qu'on a pu voir récemment à Paris, Pour un oui, pour un non, on voit bien qu'il y a deux personnages, ils sont quand même là. Il y a deux hommes, ils sont
mais
là.
J'aurais souhaité justement que ce qui se passe entre eux soit propre à tous les spectateurs, que c'est une chose qui pourrait arriver à chacun de nous, et que ce soit peu intéressant si c'est celui-ci est professeur de faculté ou si l'autre est, je ne sais pas quoi, employé de banque ou je ne sais quoi. Ça ne présente aucun intérêt.
Non, mais le fil conducteur existe, puisqu'il y a quelque chose qui est comme un crescendo dans ce qu'ils se disent.
Mais le fil conducteur n'est pas fondé sur les caractères des personnages, ni sur l'histoire de ces personnages, en dehors de ce qui est en train de se dérouler sur la scène, et qui est au présent.
Elle est fondée sur les mots, sur les échanges.
Elle est fondée sur les différentes sensations que l'un éprouve par rapport à l'autre, et qui sont provoquées par les paroles échangées. Elle provoque toutes sortes de développements dramatiques, ces paroles échangées là, sur la scène, et pas ailleurs. Ce qui se passe en dehors, ce que ces êtres sont en dehors, ne m'intéresse pas beaucoup. Même pas du tout.
Vous êtes, je crois, vraiment un écrivain de la langue, du langage, des mots. Je pense que vous devez avoir des difficultés avec les mots.
Oui, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à écrire. J'écris difficilement et je me donne beaucoup de mal.
Comment vous les trouvez, ces mots ?
Je les cherche. Et généralement, il faut que ce soit poussé par la sensation. La sensation produit les mots, et les mots, à leur tour, produisent la sensation. C'est une sorte de jeu entre les deux.
Mais est-ce que c'est l'idée qui précède, l'idée ou la sensation qui précède ? C'est-à-dire que vous avez quelque chose en tête, que vous savez, que vous avez envie de vouloir rendre ?
Certainement, il y a d'abord pour mes livres, ou même pour les pièces, il y a un thème. Il y a un certain thème, une certaine idée générale autour de laquelle tous ces mouvements se groupent. Comme dans Les Fruits d'or, c'était la naissance de la réputation d'un livre, puis la chute de cette réputation. C'était grosso modo ce qui m'intéressait. Autour de ça, je groupais tous ces mouvements dramatiques que produisait l'apparition du livre dans les consciences de ceux que je montrais.
Est-ce que vous souhaiteriez qu'il n'y ait pas de réputation de vos livres? C'est-à-dire qu'il n'y ait pas quelque chose qui est dit sur vos livres entre vous et le lecteur?
Je suis très contente quand je sais que mes livres sont lus, que les lecteurs coïncident avec ce que je voudrais d'abord leur montrer, puis il peut aller plus loin, il peut faire autre chose, il a son imagination.
Mais je veux dire, ce que vous dites dans les fruits d'or...
Ce que je n'aimerais pas beaucoup, c'est qu'il y ait, entre les livres et moi, comme dans les fruits d'or, s'interposent des idées préconçues, qui empêchent le lecteur d'accéder à la sensation, qui pour moi est très simple. Il suffit de se laisser aller, on la retrouve en soi-même. Mais s'il y a ce rideau, soit de dénigrement, soit d'admiration, il empêche le contact avec le texte. C'est ça que j'essaie de montrer dans les fruits d'or. Sans penser à moi, d'ailleurs.
Quelle est votre attitude par rapport aux critiques?
J'ai, pendant tant d'années, vous savez, été obligée de ne pas en tenir compte, soit parce qu'il y avait un silence à peu près total, et de continuer à travailler, soit parce qu'il y avait un certain manque de compréhension. Que j'ai pris l'habitude, je me suis fait comme une peau d'éléphant, et je ne réagis pas énormément aux critiques louangeuses maintenant, quand elles existent, ni aux critiques qui ne le sont pas. J'essaie le plus possible de ne pas en tenir compte. Ça m'empêcherait d'écrire.
Mais cela ne vous empêche pas, à vous, à votre tour, de faire des essais critiques. Vous en avez fait sur...
J'en ai fait, oui, c'était des sortes de mouvements d'humeur. J'ai fait un essai comme ça. Dans l'ère du soupçon, j'ai parlé de certains écrivains, puis j'ai fait un essai sur Valéry, c'était en 47, et un essai sur Flaubert qui vient de sortir, que j'ai eu l'idée, on m'a donné l'idée de rééditer. Enfin, je ne suis pas un critique, il a fallu que ce soit des choses qui, à un certain moment, m'exaspèrent ou me touchent pour que j'écrive.
Justement, vous avez eu l'attitude de vous plonger, vous, dans l'œuvre de Valéry ou de Flaubert, et de ne pas faire attention à ce qui se disait, puisqu'il faut rappeler que cet essai sur Valéry était paru 2 ans après sa mort, alors qu'il était très entouré d'éloges.
Au summum de sa réputation, elle est d'ailleurs restée encore très grande, je crois, mais c'était dirigé davantage que contre Valéry, que contre la critique. Et je vais essayer de montrer comme la critique portait au nu des choses qui n'avaient absolument aucune valeur poétique. Il y en avait dans l'œuvre de Valéry, mais ce n'était pas cela, justement, que les critiques admiraient tout en vrai, sans distinction. Et je trouvais ça très mauvais pour la poésie, très exaspérant.
Il faut dire aussi que vous êtes, je crois, révolté, je ne sais pas si le mot est trop fort, contre l'ancienne tradition du roman, et c'est tout de même vous qui avez créé le nouveau roman.
Mais c'était surtout, j'aime beaucoup les romans classiques, je suis une grande admiratrice de Madame Bovary, par exemple, des romanciers du 19e siècle, le Balzac. Mais ce que je n'aime pas, c'est quand on les copie à l'heure actuelle. C'est comme en peinture, essayer de copier maintenant Bruegel ou Rembrandt. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas grand, mais je crois qu'il faut faire autre chose. Et c'est Flaubert qui a dit qu'un seul crime pour un écrivain, c'est de ne pas chercher quelque chose de nouveau. Pas pour la nouveauté, mais parce que ça lui permettra de créer une forme vivante, de ne pas entrer dans des moules tout préparés.
Et vous avez été suivi, bien sûr, par Rob Grillet.
J'ai commencé avant d'eux, parce que simplement, ils sont dans la génération qui suit la mienne. Entre nous, une grande différence d'âge, ce qui fait que j'ai commencé à réfléchir sur la littérature bien avant eux. C'est tout à fait normal. Et en 50, j'avais fait paraître un essai, L'ère du soupçon. Justement, je montrais qu'on ne croyait plus maintenant à la réalité du personnage imité de Balzac. La réalité que nous connaissons est plus complexe. Et puis après, quand mes essais sont sortis en volume en 56, ça a attiré l'attention d'Alain Robrier, qui avait déjà reçu le prix des critiques pour Le Voyeur, qui avait écrit Les Gommes. Il a écrit sur l'ère du soupçon dans la revue Critique. Puis il a écrit des articles dans la NRF. Et il a voulu créer une sorte de mouvement pour essayer de lutter contre l'esprit traditionnel et conformiste de la critique et de la plupart des lecteurs.
Et pourtant, dans ce nouveau roman, il y a des auteurs très très différents, puisque vous êtes absolument à l'opposé d'Europe.
Mais nous n'avons jamais écrit des choses semblables. C'était toujours différent et c'est resté différent. Ils sont différents entre eux aussi, d'ailleurs, ces romanciers qu'on a groupés dans le nouveau roman. Mais nous avions en commun cette idée de la nécessité d'une certaine liberté des formes, comme elle existe en musique ou en peinture ou dans la poésie.
D'ailleurs, je crois que vous avez dit quelque part que vous étiez fasciné par le fait que Picasso, dans un tableau, peut mettre plusieurs choses qui apparaissent. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui pourrait être vu de face, de profil, l'ensemble des événements sont là, dans un tableau. Alors qu'avec les mots, vous avez beaucoup plus de difficultés.
C'est beaucoup plus difficile. Je crois que la peinture a de grands avantages sur la littérature, à ce point de vue-là. On est obligé de faire les choses les unes après les autres. On ne peut pas les montrer simultanément, alors qu'elles se produisent dans l'esprit souvent d'une manière tout à fait simultanée.
Et d'ailleurs, dans l'un de vos romans, Nathalie Sarraud, vous faites dire à l'un de vos personnages, il pense plutôt qu'il ne dit d'ailleurs, « On n'a pas encore découvert ce langage qui pourrait exprimer d'un seul coup ce qu'on perçoit en un clin d'œil. Tout un être et ses myriades de petits mouvements surgit de quelques mots, un geste, un ricanement. » Est-ce qu'on ne peut pas dire que l'ensemble de votre œuvre se situe justement là, dans ce je-ne-sais-quoi ?
Ce n'est pas toujours provoqué par des paroles. C'est souvent, tous ces mouvements se déclenchent à la suite de paroles qui ont été entendues, qui ont été reçues. Ce n'est pas toujours le cas dans mes livres. Mais enfin, ça arrive.
À propos de paroles qui ont été entendues, j'aimerais revenir à votre livre Enfance et je vais citer quelques-unes de ces paroles. À un moment, la petite fille revient à Paris, donc elle va habiter avec son père et Vera, qui est la nouvelle femme de son père, et elle entend une femme de chambre dire « Quel malheur quand même de ne pas avoir de mère !» Et la petite fille pense aussitôt à Sans famille, à David Copperfield, et vous dites « Sans famille, David Copperfield a fondu sur moi, il m'en serre, il me tient. Combien de fois ne me suis-je pas évadée, terrifiée hors des mots qui s'abattent sur vous et vous enferment ?» Alors là, les mots vous enferment, et puis à un autre moment, quand Vera vous dit en russe, Vera, c'était donc la femme de votre père, « On t'a abandonné », ce qui, si on traduit littéralement, semble-t-il, elle vous aurait plutôt dit « On t'a jeté ». En même temps que ces mots vous blessaient, leur brutalité, au contraire, vous apportait un apaisement. C'est-à-dire que vous êtes rendu compte tout à coup que cette décision ne venait pas de vous et que de toute façon, c'était là que vous alliez vivre. Donc ces mots qui ont un pouvoir magique.
Ce n'était pas pour moi un pouvoir magique. Simplement, ces mots m'ont montré que la responsabilité du fait que j'étais séparée de ma mère ne venait pas seulement de moi, comme ma mère avait voulu me le faire croire, alors que c'est elle qui, en fait, m'avait abandonnée, ne m'avait pas, enfin, reprise chez elle. Mais qu'elle venait aussi du fait que ma mère ne voulait pas de moi. Alors, au lieu d'en souffrir, ça m'a plutôt soulagée, parce que ça, je me suis dit, bien, je sais comme ça, je suis obligée de rester là de toute manière, que je le veuille ou non. C'était un cas tout à fait particulier.
Oui, mais le fait que des mots soient mis par des adultes, et je crois que c'est le cas de
tous les enfants,
peuvent amener bien sûr des réactions différentes, soit de grand désarroi, soit au contraire quelque chose qui vient pointer et rassurer.
Évidemment, parce que le mot, c'est une étiquette qu'on colle sur quelque chose, qu'il est difficile de définir, on le définit, on le fige, on le grossit, et ça devient beaucoup plus visible, et tout ce côté fluctuant... Ce côté qui est constamment changeant et qui ne supporte pas que des mots soient posés dessus, disparaît. Et puis il y a un mot qui est là et qui est connu, qui est reconnu, qu'on connaît et qui occupe toute la place de ce qui était flou et qui n'était pas définissable et qui était de la vie même. Pour moi, le mot est, comme ça, la définition est quelque chose qui fige et qui tue la sensation véritable.
En psychanalyse, on dit un mot qui vient symboliser quelque chose.
Ça, c'est très difficile de parler de psychanalyse. Je suis restée tout à fait en dehors de cela.
Vous n'aimez pas du tout ?
Je ne peux même pas dire que je ne l'aime pas. Ça ne m'a jamais servi. Je me suis toujours attachée au ressenti, à ce que je ressentais ou à ce que je croyais que les autres ressentaient autour de moi, sans m'occuper des catégories freudiennes et de ce qu'on
pourrait, vous êtes
ou de l'inconscient. Il ne s'agit pas d'inconscient, il s'agit de quelque chose d'assez conscient, à quoi on ne s'arrête pas, mais qu'on peut facilement retrouver. Alors que l'inconscient freudien, il faut qu'on vous aide à le trouver, à la faveur de toute une construction que Freud a faite, et dont je ne me suis pas occupée.
Mais vous ne pensez pas qu'intuitivement, vous êtes allé très loin dans cette découverte de ce qui affleure de l'inconscient?
Non, je ne crois pas que je me sois aventurée dans l'inconscient. En tout cas, pas consciemment, si je puis dire.
Alors pour en revenir à ces mots, il y avait donc des mots qui étaient prononcés dans la famille, auprès des gens qui vous entouraient. Et il y avait une autre institution, une autre entité qui, elle, avait un autre rôle, c'était l'école. L'école vous protégeait, vous dites. L'école vous protège. Oui. Et puis alors, en parlant de la note, vous dites, la note, c'est la justice même. Oui. Je ne suis rien d'autre que ce que j'ai écrit. Je suis à l'abri. Je suis à l'abri des caprices, des fantaisies, des remuements obscurs, inquiétants, soudain provoqués. Donc, est-ce qu'on pourrait pas dire, on ne pourrait pas dire que, par rapport à votre écriture aujourd'hui, c'est ceci aussi que vous souhaiteriez être?
Non, je suis très contente. Je me sens un être humain comme tous les autres, et avec tout ce que ça peut comporter, avec une famille, avec toute une vie, et qui n'est pas uniquement l'écriture. Je ne me sens pas uniquement ce que j'écris, enfin, c'est pas comme ça. Je ne sais pas ce que je suis en général, moi-même, oui. Mais je crois que les autres ne me voient pas seulement parce que je connais beaucoup de gens qui ne savent pas ce que j'écris. Et même des gens qui sont proches de moi et qui ne le savent pas.
Non, ce que je voulais vous dire là, c'était, vous écrivez quelque chose et c'est ça que vous voudriez, que, en tout cas ceux qui ne vous connaissent pas, que ceux-ci appréhendent et non pas aller chercher qui vous êtes.
Ah oui, ça certainement, ça certainement. Parce que le côté anecdotique, quand c'est vu du dehors, ne présente vraiment alors aucun intérêt à mes yeux.
Et pourtant, tout de même, votre œuvre laisse voir des choses de vous.
Pas grand-chose, je crois, au niveau de l'anecdote. N'est-ce pas? On a voulu voir, par exemple, dans Portrait d'un inconnu, quelque chose qui pourrait rappeler mes rapports avec mon père, je pourrais presque dire c'est l'opposé. Mon père était là. J'ai voulu montrer un avare et reprendre la situation balzacienne d'Eugénie Grandet, volontairement. Et dans une situation telle que celle d'Eugénie Grandet, ce que verrait l'œil d'un moderne. Ça n'avait absolument pas l'ombre d'un rapport avec ce qui existait entre mon père et moi. Mon père était la générosité même aussi. Éloigné de rapports basés sur l'argent, que c'était possible. C'était même pas pensable entre nous. Et on a toujours pensé que c'était où je racontais mes rapports avec lui. Ça n'a rien de commun.
Mais vos idées ne vous viennent pas de vos rapports avec les gens
ou... Non, ce n'est pas les rapports. Ce sont des choses qui sont à peine définissables, qui glissent, qui passent, que je peux sentir chez n'importe qui.
J'aimerais terminer avec vous, Nathalie Sarraute, avec ce texte que, pour ma part, j'ai trouvé vraiment remarquable, mais comme beaucoup d'autres aussi que vous avez écrit, qui s'intitule, je ne pourrais pas le dire en allemand, mais c'est « Je meurs ». Pouvez-vous m'en
parler? Voilà, là j'ai pris quelque chose, véritablement, comme je ne suis pas encore morte, j'ai essayé de m'imaginer Tchekhov, puisqu'il a dit en allemand « je meurs » au lieu de dire en russe, ça m'a toujours frappé. Pourquoi l'a-t-il dit en allemand? Et essayer de revivre ces derniers moments comme ils ont pu être vécus. C'est pas Tchekhov lui-même qui m'intéressait, mais c'était cette attitude à l'égard de la mort, ces sensations au moment de la mort. Vous voyez, là c'est vraiment un cas où je ne suis pas entrée avec ma propre vie.
Non, pas du tout. Mais Tchekhov qui dit donc en allemand à son médecin allemand, ce mot donc, dans une autre langue que sa langue d'origine, est-ce que ça n'est pas pour vous une dernière volonté de communiquer?
J'ai écrit tout le passage là-dessus, il faudrait que je le relise. Quand j'ai fini quelque chose et que je l'ai écrit il y a déjà un moment, ça s'est trop éloigné. J'imagine que c'est là-dessus qu'est basé tout le passage. Et justement pour montrer pourquoi il a voulu communiquer dans cette langue étrangère. C'est là que tout le passage tourne autour de ça, je crois. Ich sterbe, vous m'entendez? Je suis arrivé tout au bout, je suis tout au bord, Ici où je suis est le point extrême. C'est ici qu'est le lieu. Ich sterbe, un signal, pas un appel au secours. Là où je me trouve, il n'y a pas de secours possible, plus aucun recours. Vous savez comme moi de quoi il retourne. Personne mieux que vous ne sait de quoi je parle. Voilà pourquoi c'est à vous que je le dis, ich sterbe. À vous, dans votre langue. Pas à elle, qui est là aussi près de moi. Pas dans notre langue à nous. Pas avec nos mots trop doux, des mots assouplis, amollis, à force de nous avoir servi, d'avoir été roulés dans les gerbes jaillissantes de nos rires, quand nous nous laissions tomber sans force. Oh, arrête, oh, je meurs. Des mots légers que le cœur battant de trop de vie, nous laissions glisser dans nos murmures, s'exhaler dans nos soupirs. Je meurs.
Nathalie Sarraute lisait un extrait de Ich sterbe, enregistré sur cassette aux éditions des Femmes. On peut également trouver le texte intégral de Enfance, présenté et lu par Nathalie Sarraute chez Audilivre. Ces cassettes sont en vente chez tous les disquaires et libraires.
L'émission Agora avec Nathalie Sarraute a été diffusée pour la première fois le 23 juin 1986. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no. Her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those gay men go. It's the freakiest show. Take a look at the lawman beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know who's in the best. Is there life on Mars?
It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on.